Audible Studio présente L'épée de vérité, livre 13, Le troisième royaume, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Chapitre 1er.
On devrait les manger maintenant, dit un homme d'une voix rauque. « Avant qu'ils meurent et prennent un mauvais goût. »
Richard n'était que très vaguement conscient des murmures étouffés autour de lui. Toujours sonné, il ne parvenait pas à identifier les gens qui parlaient, ni à vraiment comprendre ce qu'ils disaient. Mais leur ton de prédateur suffisait à l'angoisser.
« Moi, je suis d'avis qu'on devrait les vendre. »
dit un autre type tout en serrant le nœud de la corde qui entravait les chevilles du sourcier.
« Les vendre !»
s'insurgea le premier homme.
« Regarde les couvertures qui les enveloppent. Elles sont poisseuses de sang comme le plancher du chariot. Ils mourront avant qu'on les ait vendues et il faudra les jeter aux ordures. En plus, comment les porterions-nous tous les deux ? Les chevaux de leurs soldats et ceux de l'attelage se sont enfuis, il ne reste plus rien qui vaille un sou. »
L'autre type soupira à Pierrefendre.
Dans ce cas, nous devrions manger le grand avant que de la concurrence se montre. La petite sera plus facile à porter et à vendre.
À moins qu'on la garde pour un prochain repas.
Non, il faut la vendre. Quand aurons-nous une autre chance de nous remplir les poches?
Tandis que les deux hommes discutaillaient, Richard tenta de tendre un bras pour toucher Callan allongé à ses côtés. Il ne réussit pas car ses poignets aussi étaient entravés par une corde rugueuse. Nécessité faisant loi, il donna un petit coup de coude dans les côtes de sa compagne, qui ne réagit pas. Ayant compris qu'il allait vite devoir faire quelque chose, Richard savait qu'il lui fallait d'abord recouvrer ses forces puis sa lucidité s'il voulait avoir la moindre chance. Hélas, il ne s'était jamais senti si faible. Brûlant de fièvre, il semblait souffrir d'un mal qui l'avait vidé de toute sa vitalité et qui plongeait son esprit dans un brouillard permanent. Levant un peu la tête, il plissa les yeux malgré la chiche lumière, fit un effort pour mieux voir et reprendre ses repères, mais ne distingua quasiment rien. Quand sa tête heurta quelque chose, il sursauta, puis comprit que Callan et lui étaient couverts d'une sorte de bâche. En regardant sous l'extrémité la plus éloignée de sa tête de ce linceul, il aperçut deux silhouettes qui se tenaient debout devant le berceau du chariot à ses pieds. Un des types souleva la bâche du côté de Callan afin de permettre à l'autre de lui ligoter également les chevilles, comme il venait de le faire pour Richard. La bâche étant soulevée, le sourcier put constater qu'il faisait nuit. La lune était pleine, mais dans un ciel chargé, sa lumière restait très pâle. Une brise légère faisait onduler les branches des épicéas qui se dressaient dans le dos des deux hommes, formant une sorte de barrière végétale. Quand Richard lui titilla un peu plus fort les côtes, Callan ne réagit pas plus que la première fois. Comme lui, elle avait les mains liées et reposait au niveau de la taille. Inquiet pour sa femme, il était sorti du néant sans trop savoir comment. Au moins, elle respirait encore, bien que très lentement et sans jamais inspirer à fond. Alors qu'il reprenait ses esprits, Richard s'avisa que la fièvre n'était pas son seul problème. Son corps entier souffrait d'une multitude de petites plaies, dont certaines saignaient encore. Ses vêtements imbibés de sang, Callan aussi étaient couvertes de coupures. Mais ce n'était pas seulement son état et celui de Callan qui inquiétaient le sourcier. Dans l'air moite qui pénétrait sous la bâche, il captait l'odeur du sang et elle montait de derrière les deux hommes. Des gens étaient venus les secourir, Callan et lui, des alliés et des amis. Soudain, l'angoisse se fit plus forte que la volonté de recouvrer ses forces. En se concentrant, il sentit dans son corps les effets secondaires d'une guérison et reconnut l'empreinte de la femme qui s'était occupée de lui. Mais puisqu'il souffrait encore de ses blessures, ça signifiait que le processus n'était pas allé jusqu'à son terme. Pourquoi cette interruption ? Du côté de Callan, il entendit un bruit. On traînait quelque chose sur le plancher du chariot.
« Regarde ça !»
lança le type à la voix rauque. Pour la première fois, tandis que l'homme brandissait sa trouvaille, Richard put voir la taille impressionnante de ses bras.
« Comment ont-ils pu rater ça ?»
fit l'autre type avant d'émettre un long sifflement.
« D'ailleurs, comment ont-ils aussi pu rater ces deux-là ?»«
À voir le carnage !» dit le colosse au bras d'acier. « Ce devaient être les Shuntuk !»
L'autre homme baissa le ton.
« Les Shuntuk ? Tu en es sûr ?»«
D'après ce que je sais de leur méthode, je parie que c'était eux. »
« Que ficherait-il dans ce coin ?»«
La même chose que nous. Chasser des gens qui ont une âme. »«
Si loin de chez eux, c'est peu probable. »«
Maintenant qu'il y a une brèche dans la haute muraille, tu vois un meilleur endroit où chasser des âmes ? Pour ces proies-là, les Shuntuk iraient n'importe où, comme nous. »
Le colosse brandit le poing.
« Nous sommes sortis de chez nous pour chasser sur ces nouveaux territoires, pas vrai ?» « Eh bien, les Shuntuk ont fait de même. »«
Mais leur domaine est très étendu. Tu crois qu'ils s'en éloigneraient autant ?»«
Leur domaine est vaste, c'est vrai. Et ils sont puissants. Mais il leur manque ce qu'ils désirent le plus. Depuis qu'on peut traverser la haute muraille, ils sont en mesure de chasser leurs proies préférées, comme nous et comme tous les autres. »«
Peut-être, mais ils sont quand même très loin de chez eux. » Tu les crois capables de s'aventurer si loin de leur terre natale ?
Je n'ai jamais rencontré un seul Shuntuk, et j'espère bien continuer comme ça.
Le colosse sonda la crête des arbres tout en passant une main dans ses cheveux poisseux de sueur.
Mais j'ai entendu dire qu'ils chassent les autres demi-hommes, histoire de s'entraîner quand ils n'ont pas d'âme à traquer. Et ce carnage leur ressemble bien. En général, ils attaquent la nuit. Quand leurs proies sont en terrain découvert, comme ici, ils frappent à la vitesse de l'éclair et savent tirer profit de l'avantage du nombre. Avant qu'on ait eu le temps de les voir venir, et moins encore de réagir, c'est terminé. En principe, ils mangent sur place quelques-uns des vaincus. Mais ils emportent avec eux le plus gros du festin.
Et ces deux-là, pourquoi les ont-ils laissés ?
Une erreur. Pressés de dévorer certains de leurs prisonniers avant d'emmener les autres, ils n'auront pas vu les deux blessés sous la bâche. »
Le compagnon du colosse, plus petit et moins musclé, se pencha pour ramasser un éclat de bois.
« Il paraît que les Shuntuk reviennent souvent sur les lieux d'une attaque pour voir s'ils n'ont oublié personne. »«
C'est vrai.
Dans ce cas, nous ne devrions pas traîner ici. Quand la soif de sang les prend, ils dévorent n'importe qui, tu le sais. »
Richard sentit des mains puissantes se refermer sur une de ses chevilles.
« Je croyais que tu voulais manger le grand avant qu'il meure et que son âme l'ait quitté. »
Le petit type saisit l'autre cheville du sourcier.
« Il vaut peut-être mieux le conduire d'abord en lieu sûr, quelque part où les Shuntuk ne risqueront pas de nous tomber dessus. Une fois un festin commencé, je déteste qu'on m'interrompe. Nous tirons un bon prix de la petite. » Il y a des gens capables de payer une fortune pour une proie dotée et d'une âme, mais les Shuntuk seraient prêts à négocier.
Ton idée est risquée.
Le colosse réfléchit quelques instants.
Mais t'as raison. Les Shuntuk nous couvriront d'or pour celle-là. Mais le grand est à moi, compris ?
Il y en a assez pour deux.
Le colosse grogna comme s'il s'abandonnait déjà à une faim dévorante.
Avec une seule âme.
Qui appartiendra à celui qui la mangera.
Bon, assez parlé. J'ai hâte de me régaler.
Tandis qu'on le tirait hors du chariot, Richard s'efforçait toujours de recouvrer ses esprits afin de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Il se souvenait très bien des avertissements qu'on lui avait adressés au sujet des terres noires. Et il était assez lucide pour savoir que sa vie, en cet instant, dépendait de son aptitude à ne pas montrer aux deux hommes qu'il était revenu à lui. Tiré par les chevilles hors du chariot, il tomba lourdement sur le sol. Même s'il tenta de rentrer la tête dans les épaules, ses poignets, liés, l'empêchèrent d'utiliser ses bras pour amortir le choc de sa tête contre la terre dure comme le roc. La douleur fulgurante fut suivie par un étourdissement. S'il cédait et sombrait dans le néant, tout serait fini. Richard se concentra sur son environnement, en quête d'une voie d'évasion, un moyen de rester conscient. D'après ce qu'il vit à la chiche lueur de la lune, le chariot était perdu au milieu d'un paysage désolé et il n'y avait pas un cheval en vue. Pas âme qui vive non plus. En revanche, des ossements. Et pas blanchis par le temps. Non, encore rouges de sang et couverts de lambeaux de chair. À certains endroits, on distinguait encore des marques de morsures. Des os humains, gisant parmi des uniformes déchiquetés. La tenue des hommes de la première phalange, ses gardes du corps. Certains d'entre eux au moins avaient donné leur vie pour défendre leur seigneur et sa femme. Comme s'il répugnait à abandonner sa proie, le petit pillard n'avait pas lâché la cheville du sourcier. Un peu à l'écart, le colosse contemplait l'objet qu'il avait récupéré dans le chariot. Richard vit qu'il s'agissait de son épée. De sa main libre, le colosse tira à demi Callan dessous la bâche. Les jambes de la jeune femme se plièrent et pendirent mollement dans le vide. Alors que le grand type regardait distraitement Callan, Richard s'assit, puis plongea avec l'intention de s'emparer de son épée. Sans effort, le colosse écarta l'arme avant qu'il ait eu le temps de refermer les doigts sur la poignée. Les mains et les pieds entravés, Richard n'avait pas pu être assez rapide. Les deux hommes reculèrent. Désormais, ils savaient que leur proie était consciente. Sans rien gagner en retour, Richard venait de perdre son seul avantage. Voyant qu'il était éveillé, les deux types décidèrent de ne plus perdre de temps. Dévoilant leurs dents, tels des loups affamés, ils se jetèrent sur Richard, attaquant comme des bêtes sauvages ivres de sang. Une lueur sauvage dans les yeux, le plus petit déchira la chemise du sourcier. Rugissant comme un fauve, le colosse en prit tout de suite à sa gorge. D'instinct, Richard plia un genou, détournant l'assaut à la dernière seconde, mais en se tournant pour protéger sa gorge, il exposa son épaule. Quand des dents s'enfoncèrent dans son avant-bras, il hurla de douleur. S'il n'agissait pas vite, une seule idée lui vint. Son don. S'immergeant au plus profond de lui-même, il se mit en quête du pouvoir qu'il avait reçu le jour de sa naissance. Rien ne se produisit. Alors qu'il était furieux, désespéré et fou d'angoisse pour Callan, toutes les conditions semblaient réunies pour que son don réponde à son appel. Par le passé, dans des situations semblables, le pouvoir ne l'avait jamais abandonné. Sa magie aurait dû se déchaîner. Mais elle semblait l'avoir abandonné. Pieds et poings liés, privé de son don, il n'avait aucun moyen de lutter contre les deux hommes.